C'est les futures milices des chasseurs qui ratissent les lièvres et les gitans. Une ville, mais cet îlot tranquille que je croyais pourtant. Un village s'est grossi à la loupe, une harde ou un groupe de petits commerçants. Un village a refermé ses portes sur sa vie de cloporte et sur mes 14 ans. Un village a bouclé ses frontières sur un morceau d'hiver, sur un coin de Liban. Sur un coin de Liban.
Les hommes, ils aiment les femmes à hommes. Les femmes, elles aiment les hommes à femmes. Une femme sans homme, elle n'a pas d'âme. Un homme sans femme, il reste en panne. Mais toujours la femme varie près d'un mari qui est comme la pluie, froide et la plus chaude des brunes. Près d'un mari qui est comme la lune. Près d'un mari cousu de thune. Froide et la plus chaude des blondes. Près d'un mari à tête ronde. Près d'un mari comme tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard d'agiter son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Au paradis il n'y a plus de flamme, au paradis s'en vont les âmes. Alors elles crèvent d'ennui et se rappellent toutes les folies qu'elles auraient pu se payer sur terre. Elles rêvent à la fermeture éclair, qu'elles remontent d'un air si fier. Elles rêvent des divans profonds entrevus dans les garçonnières. Mon Dieu, pourquoi fiche des manières. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour tordre son mouchoir. Les hommes ils aiment les femmes à hommes, les femmes elles aiment les hommes à femmes. Certains curés tombent les dames, même parfois les nonnes s'enflamment pour d'abominables hommes des plages qui les entraînent à la nage. Amours aquatiques et sauvages, faites la vie d'âmes honnêtes, catherinettes et nonnettes, brunes ou blondes, mazes ou rondes, vous êtes sur la map monde pour faire plaisir à tout le monde. La vie s'envole et quand on s'affole, hélas il est trop tard pour mordre son mouchoir.
Chérie noire. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir qui démarre aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale, qui sera un peu plus longue que d'habitude, puisqu'on va avoir l'antenne en direct pendant une heure et demie. Et on a aujourd'hui le très très grand plaisir et l'honneur d'accueillir Loïc Seri, qui est le directeur du centre de recherche de l'Institut du Tout Monde, consacré notamment à la promotion de l'œuvre d'un très grand écrivain antillais qui s'appelle Édouard Glissant, et qui est Loïc Seri, l'auteur d'une espèce d'œuvre assez inclassable qui est paru aux éditions du Tout Monde, c'est l'an dernier me semble-t-il, ou il y a en 2020. Donc c'est assez récent, consacré à l'œuvre de Glissant. Ça s'appelle Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Donc il y a actuellement deux tomes qui sont disponibles. Le premier tome est intitulé Rassembler les mémoires, le deuxième Renverser les gouffres. C'est un livre assez hors norme. Alors je le dis d'emblée parce qu'il est c'est une mine d'informations absolument incroyable. Loïc Seri est sans doute un des meilleurs connaisseurs de l'œuvre de Glissant aujourd'hui. Mais dans ce livre, il n'y a pas que ça. Il y a d'une part une présentation de l'œuvre de Glissant extrêmement précise, extrêmement informée, mais aussi tout un tas de pistes de lecture, d'interprétation et de propositions de compréhension de l'œuvre d'Édouard Glissant, qui est assez vertigineuse. Donc on est vraiment ravis d'accueillir Loïc ce soir pour nous présenter, on n'aura certainement pas le temps de parler de l'ensemble de ce que tu développes dans ces deux tomes. Il y a un troisième tome qui est à paraître, hein, ouais. tu l'as dit, donc sans doute dans quelques temps, qui sera une anthologie ouais. de textes consacrés à de textes de Glissant, hein, ouais. donc qui permet, alors tu vas nous en parler bien entendu, mais je trouve que c'est peut-être pas ce qu'on appelle une intro reproduction facile à l'œuvre de Glissant, mais par contre, c'est peut-être le meilleur panorama auquel on peut avoir accès aujourd'hui sur l'œuvre de ce très très grand écrivain Édouard Glissant. Alors peut-être pour commencer, parce que c'est un nom qui peut être familier à certains auditeurs ou pas, hein, parce que Édouard Glissant est à la fois c'est un auteur qui est à la fois connu et pas connu, en fait, hein, connu et mal connu peut-être aussi. Il est beaucoup mieux connu, tu nous en diras aussi peut-être quelques mots, sans doute aux États-Unis ou auprès d'un lectorat et d'un public anglophone qu'en France, hein, ce qui est un paradoxe puisque c'est un écrivain de langue française, entre autres. Peut-être que pour commencer, le mieux c'est peut-être que tu nous rappelles un petit peu qui était Édouard Glissant, c'est-à-dire un petit peu qu'on ait une idée un petit peu aussi de sa vie, de son œuvre aussi de manière générale, pour que les auditeurs puissent se rendre compte, mesurer un peu aussi à la fois la personne hein, qui l'a été, et puis avoir une approche un peu générale de son œuvre. Donc peut-être que Loïc, tu peux commencer par nous dire quelques mots là-dessus, juste avant que tu commences. Peut-être avant tout cela, deux mots sur le morceau qu'on vient d'entendre là en introduction de cette émission, qui est un morceau de Billie Holiday qui s'appelle Strange Fruit et qui a évidemment un sens spécial, qui est un de tes choix ce soir d'illustration musicale. Peut-être si tu peux nous en dire deux mots avant de nous parler un peu de Glissant.
Alors avant toute chose, je suis ravi d'être parmi vous. Pour beaucoup de raisons. Et alors, pour commencer en effet sur Strange Fruit, il se trouve que c'est le premier texte en fait qui figure dans l'anthologie La Terre, le Feu et les Vents d'Edouard Glissant, l'anthologie littéraire qu'il appelle l'anthologie du Tout Monde. Et en somme, cette prééminence qu'il a donnée au texte d'Abel Méropol, Strange Fruit, et qu'il aimait particulièrement dans l'interprétation de Billie Holiday, veut tout dire dans cette anthologie de l'importance pour lui, non pas forcément uniquement de la question qu'on peut dire raciale, mais des traces de l'esclavage.
On rappelle, hein, Strange Fruit, ce fruit a d'étrange, c'est qu'il s'agit de la description d'un pendu, plus exactement d'un noir lynché aux États-Unis dans les années 50.
Tout à fait. Édouard Glissant, il était très frappé du fait qu'on pouvait tomber sur, à cette époque-là, sur des cartes postales qui représentaient de manière quasiment touristique, en somme, eh bien, des scènes de lynchage de noirs, c'est-à-dire des noirs qui étaient pendus aux arbres, et puis vous aviez sous l'arbre un couple qui se bécotait, et voilà, c'était normal. Donc pour lui, c'est la violence historique qui est représentée par ça, et c'est une violence totale, et voilà, donc il était très attaché à ça, il a même eu le souci de transmettre cela à ses enfants. Il le faisait écouter à ses enfants cette chanson. Donc il y a toute une histoire effectivement du lien entre Glissant et Strange Fruit. Ouais.
D'accord. Et alors donc du coup tu disais le lien effectivement qui est lié aussi du coup alors à sa vie.
Tout à fait. Voilà. Alors donc en deux mots, moi je vais essayer de faire un panorama biographique pour attirer finalement l'attention sur deux ou trois points qui me semblent importants. Glissant il naît en 1928, et il est effectivement, il arrive une génération après Césaire. Hein. Césaire, c'est on l'appelle le chantre de la négritude, mais c'est effectivement celui qui a participé avec Senghor et Damas, et puis bien d'autres aussi, à l'élaboration du concept de négritude, c'est-à-dire finalement ce que Senghor a défini comme la défense de la civilisation et des faits culturels noirs. Hein. Et lui, Césaire, quand il grandit, il est donc le fils d'un gérant d'habitation. Et qui le reconnaît à l'état civil.
Glissant, hein, tu dis. Hein.
Édouard Glissant, ouais. Oui. Donc, il le reconnaît à l'état civil à l'âge de 12 ans, quand il réussit le concours des bourses, le concours d'entrée en 6e. Voilà, et donc, il est élevé essentiellement par sa mère. Et donc, son père est un gérant d'habitation qui a un rôle pour lui assez, assez important en termes de symbolique de la place, si tu veux, dans le système colonial du gérant d'habitation. On pourra y revenir parce que ça revient dans son œuvre aussi. Alors il grandit, il va intégrer le lycée Schœlcher, qui est finalement à l'époque à Fort-de-France le lycée de l'élite. Dans ce lycée donc colonial, hein, qui est véritablement, c'est vraiment l'enseignement colonial de très haute volée, il faut le dire. Mais c'est effectivement un enseignement marqué par les choses. Et puis à cette époque-là, quand il intègre le lycée Schœlcher, eh bien Césaire vient d'être nommé professeur de philosophie. Donc évidemment, il va être très influencé par cette présence-là. Césaire n'est pas son prof de philo, c'est Aristide Mauger qui est son prof de philo. Mais donc il est un très grand lecteur des messages Césaire. Mais c'est simplement Delolis et Schellcher, quand il en parle avec ses amis, et puis avec le groupe dont il est issu, qu'il a quasiment créé avec ses amis au Lamentin, le groupe du Frangeux, il montre le souci de coller davantage à la réalité antillaise. Donc déjà à cette époque-là, il a une certaine méfiance par rapport au chef de la négritude.
Donc là, on est avant-guerre.
Avant-guerre.
On n'est pas
avant-guerre véritablement. On est dans les années 46.
Juste après-guerre.
Voilà. On est en 45-46. Ouais. Voilà. Donc okay. Il va partir en France pour faire ses études en 46. Il va faire des études d'ethnologie, de philosophie principalement. Et donc il va commencer une activité littéraire qu'il avait déjà débuté un peu en termes embryonnaires en Martinique. Et il va être très lié au groupe qui se rassemble en fait autour des lettres nouvelles de Maurice Nadeau, c'est-à-dire Jacques Charpier, Kateb Yassine, Yves Bonnefoy, on peut citer encore Maurice Roche, ce sont des gens qui ont vraiment été très liés à cette époque-là. Alors, il y a un tournant, c'est celui de 58, hein, parce qu'il obtient le prix Renaudot avec La Lézarde.
Avec La Lézarde, bien sûr.
Et La Lézarde frappe énormément à l'époque, parce qu'on n'est pas habitué à cette écriture un peu foisonnante, mais qui surtout pose des questions politiques, mais pas de manière manichéenne, vraiment. Donc, c'est avec beaucoup d'interrogations, plus d'interrogations que de réponses, finalement. Et donc 1956, je reviens un peu en arrière, est très important pour Glissant parce qu'il va publier deux œuvres marquantes chez lui. C'est un grand poème lyrique qui s'appelle Les Indes et qui est au même moment, il publie Soleil de la conscience. Voilà, Soleil de la conscience, on le dit généralement, c'est un livre dans lequel, c'est un petit livre, mais dans lequel il y a une telle densité que quasiment tout Glissant y est, c'est-à-dire les interrogations de Glissant, mais ça y est en termes cryptés. Hein, quasiment. Mais je suis sûr qu'on va y revenir parce qu'on revient toujours à Soleil de la conscience quand on parle de Glissant. Pour aller vite par rapport à ces années-là, il y a un point très important, c'est son action politique.
Oui, c'est un militant anticolonial.
Tout à fait. Il épouse vraiment son époque, c'est-à-dire l'époque des décolonisations. En 59, il va rencontrer au deuxième congrès des artistes noirs. Le premier, c'était en 56 à la Sorbonne. Il va rencontrer à Rome, donc au deuxième congrès, Albert Béville, qui va avoir une importance considérable pour lui. Ils vont être très liés. Et Albert Béville, c'est un administrateur colonial qui a une carrière littéraire et qui a un engagement anticolonial très très marqué. Et en littérature, il s'appelle Paul Niger. Et c'est quelqu'un qui publie particulièrement un livre dans ces années-là qui est très important, c'est Les Antilles et la Guyane à l'heure de la décolonisation. Donc vraiment, c'est le mouvement de la décolonisation. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 61, avec un avocat qui s'appelle Marcel Manville, qui est également très, très important pour cette conscientisation anticoloniale à cette époque-là, un Martiniquais, et puis également Conné Marie-Joseph, et Cataillé, Justin Cataillé, ils vont fonder le FAGA. Le FAGA, c'est le Front Anticolonial, donc en l'occurrence, qui sera interdit par le pouvoir gaulliste en 62, donc l'année d'après. Et Édouard Glissant va être arrêté. Et il va être, si vous voulez, mis en résidence surveillée. Voilà.
Et alors à la même époque, tu m'interromps si je me trompe, mais il me semble que cette chronologie-là, tu as parlé de Césaire, mais il y a évidemment la troisième grande figure des écrivains antillais, c'est Fanon.
Oui.
Qui est, alors, donc qui n'est pas tout à fait de la même génération, qui est un petit peu plus âgé, si je ne me trompe pas.
À peine, parce qu'en fait, Fanon, il le rencontre justement quasiment dans les premières années à Paris. Et évidemment, il se lie d'amitié très très rapidement. Il perçoit tout de suite la vélocité intellectuelle de Fanon. Ils ont des discussions en particulier sur ce qu'il appelle le réel antillais. Et Fanon va rester pour Glissant une référence constante. Quand on prend les épigraphes, alors les épigraphes chez Glissant, c'est d'une importance considérable. C'est très très crypté. Quand on prend le discours antillais, qui est son maître ouvrage, hein, alors il y a une épigraphe de Fanon qui permet de comprendre quasiment tout le discours antillais. C'est une tâche colossale que l'inventaire du réel. Et finalement, le discours antillais, c'est l'inventaire du réel antillais. C'est-à-dire qu'il s'agit de mettre à plat tout l'assimilation, la négritude, et puis de se dire, il y a un réel qui nous pose problème, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de faire l'inventaire de ça. C'est ça qu'il fait en 81. Et donc j'étais à 62 avec... Il y a un drame qui se passe en 62 parce que Paul Niger, enfin Albert Béville, meurt dans un accident d'avion qui fait 173 morts à Pointe-à-Pitre. Et c'est un drame personnel pour Glissant. Il se trouve qu'en 64 qu'il va sortir son maître ouvrage de l'époque en termes de roman, puisque avant il y avait eu la Lézarde, mais c'est vraiment un roman très ambitieux, c'est le 4e siècle en 64. Et le 4e siècle est justement dédié à Paul Niger, à Albert Béville. Et on va revenir sur le 4e siècle, mais donc pour dire les choses en termes de trajectoire politique, après sa mise en résidence surveillée, il va revenir en Martinique en 65. Il décide de revenir en Martinique, il devient prof de philo au lycée de Bellevue, et il va créer, parce qu'il trouve que évidemment l'enseignement, qui est encore un enseignement colonial, c'est un problème fondamental pour les Martiniquais, et il va décider de créer son institut d'enseignement. En 1967, il crée l'IME, l'Institut Martiniquais d'études, et il choisit de l'implanter dans un quartier de Fort-de-France, qui est le quartier des béquets, c'est-à-dire des colons. C'est un quartier quasiment marqué par une sorte d'apartheid, quoi, parce qu'il n'y a que des colons, à l'époque, qui habitent là. Et il implante au milieu de ce quartier, alors qu'il a sa réputation déjà subversive, hein, c'est quelqu'un qui a été un militant de l'anticolonialisme, etc. Il décide de mettre ça là, mais ce n'est pas de la provocation pour lui, c'est qu'il veut faire avancer les consciences, et il va toujours se méfier d'une approche trop doctrinale des choses. Il va créer, en fait, dans le sillage de l'IME, une revue, c'est ACOMA, et en fait, c'est une revue qui est un assemblage de chercheurs en sciences sociales qui finalement rentrent dans son sillage pour essayer de faire cet inventaire du réel, hein, c'est-à-dire savoir ce qu'est l'entrée dans la société de consommation à cette époque-là, qui est quelque chose de vertigineux, parce qu'il y a l'effondrement de la société sucrière, et puis on entre brutalement dans la société de consommation. Donc il y a des sociologues, des anthropologues, des historiens qui sont regroupés autour de cette revue-là. Et puis c'est une revue qui va fonctionner jusqu'en 73 environ. Et à partir de là, donc il continue son œuvre. Hein. Il a écrit en 1959 l'intention poétique qui a une importance considérable et qui a un lien particulièrement avec Soleil de la conscience.
Soleil de la conscience, oui.
Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en 80, dans cette décennie qui va aller de la fin des années 60 à, la fin des années 70, c'est vraiment le moment d'observation de la société antillaise chez Glissant. Et c'est là qu'il fonde tout le corpus qu'il va développer en 81 dans le discours antillais. Voilà. Mmh. Alors, pour sa biographie, en 81, il est appelé à l'UNESCO. Il devient le directeur, un directeur très marquant jusqu'à présent. On s'en souvient. On était hier à l'UNESCO. La trace de Glissant est encore très importante. Il devient directeur du courrier de l'UNESCO. Et il mène, il mène une évolution de la revue très marqué sciences humaines, véritablement, et il multiplie, je me souviens qu'il me disait ça avec beaucoup de fierté, les éditions linguistiques, les traductions de la revue. Il me disait que c'était passé de 30 à 50, enfin, il était très fier. Voilà.
Peut-être juste, tu peux dire un petit mot sur cette œuvre qui est centrale, tu l'as dit, que le discours antillais, ouais, de 81, ouais, et qui est aussi une œuvre complètement fascinante, parce qu'elle correspond à aucun code universitaire, à aucun code intellectuel. C'est, en fait, c'est une œuvre qui mêle à la fois de la psychologie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la poésie, et qui assume ça, qui revendique ça comme une méthode, en fait, adaptée justement à cet inventaire du réel antillais.
Absolument.
Et comme la seule méthode, en fait, adaptée, c'est-à-dire que aucune des disciplines acceptées par le canon universitaire ou même par les classements intellectuels classique ou habituel, ne permet de saisir ou de capter effectivement ce réel antillais, cette histoire, cette absence d'histoire, au contraire, de l'esclavage, et glissant, du coup, présente alors un texte qui est, c'est pareil, c'est pas un petit texte pour le coup, le discours antillais, il y a plusieurs centaines de pages, et qui croise comme ça, et qui multiplie comme ça les approches. Voilà, on attaque le sujet par un bord, puis par un autre, puis c'est on ça. Croise, et puis on revient, et puis on réessaye autre chose, on retente, on revient, on reformule ce qu'on a dit précédemment, c'est et c'est un texte qui, de ce point de vue-là, est assez unique.
Il est complètement unique, mais tu ne vois pas si bien dire, c'est-à-dire que quand tu dis que c'est un texte qui est atypique, c'est qu'en réalité, il est tellement atypique qu'en fait, c'est une thèse à l'origine. C'est une thèse.
Et qui va déborder.
Même la thèse elle-même, elle déborde déjà. À tel point que lors de la soutenance, on se pose la question, à la fin de la soutenance, finalement, c'est une thèse de quoi ?
Oui, c'est une bonne question du point de vue universitaire.
À l'origine, ça devait être une thèse. Alors, il avait hésité, philo, linguistique, parce qu'il parle beaucoup du créole,
oui,
etc. Et on dit finalement, ça se rapproche le plus d'une thèse d'anthropologie.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est
donc, en somme, ce qu'il va faire, c'est que quand il va publier le texte au Seuil, il va encore accentuer ce côté, non pas fourre-tout, mais ce côté qui est fondé sur une idée chez lui, exactement comme tu l'as dit, c'est que ce réel qui est une énigme quasiment, on ne peut pas l'approcher selon ce qu'il appelle les disciplines héritées. Alors, il appelle ça comme ça, et il dit on ne peut l'approcher que par la transversalité. C'est-à-dire en prenant différents points de vue, c'est pour ça que dans le discours antillais, il y a à la fois de la sociologie, il y a à la fois de l'histoire, mais vraiment de l'histoire. Il y a à la fois de la psychologie. Il y a des notions de psychanalyse qui viennent dans la dernière partie du livre, qui sont très importantes. Donc c'est tout ça à la fois. Et il y a évidemment de la littérature. De manière très, très, très inattendue à certains endroits, où après des développements théoriques, brusquement, il y a des choses qui sont poétiques, et donc, mais qui ont un sens.
Et il y a de la politique.
Il y a de la politique, évidemment. Parce que quand il parle d'histoire, quand il parle de sociologie, évidemment, ce sont des enjeux qui sont directement politiques pour la société dans laquelle il se trouve, qui est une société qui souffre de manque. En fait, le texte commence par ça. Il énumère les manques et les hiatus, les problématiques qu'il y a d'identité. Le Martiniquais, pour lui, ne sait pas qui il est, il ne sait pas qu'il forme un peuple, à la limite, il ne cherche même pas à créer un peuple. Enfin, c'est tous ces manques-là qui sont à la base.
On va y revenir ça après, parce que c'est évidemment c'est central là-dedans, dans son œuvre. Et donc, je t'ai coupé là, parce que on était autour de 1980, tu disais.
Alors oui, à 81, il va donc à l'UNESCO, il va donc rester à l'UNESCO jusqu'en 88. En 88, il va être appelé à l'université de Bâton Rouge, LSU, à Bâton Rouge, où il va devenir
en
Louisiane. Donc on l'accueille véritablement comme quelqu'un de très important. Il va devenir au terme de sa carrière universitaire ce qu'on appelle distinguished professor.
Et là, juste par curiosité, en fait, il est invité dans quel département pour le coup ?
Département de littérature francophone, c'est-à-dire de littérature, de civilisation et de littérature francophone. Okay. Ce qui va se passer, alors ça, quand je te parle de ça, forcément, c'est un sujet que tu connais très bien parce que tu as fait un article remarquable sur Faulkner, Mississippi. Il devient, à cette époque-là, l'un des spécialistes de William Faulkner. C'est-à-dire que c'est un écrivain qu'il a toujours pratiqué, mais le contact avec le lieu même où tous les personnages de Faulkner évoluent, c'est-à-dire la Louisiane, pour lui, c'est quelque chose qui est d'une importance considérable, et il y a ce texte qui va donc être publié chez Stock en 94, c'est Faulkner Mississippi, et dans lequel il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Non seulement c'est une étude de Faulkner, mais c'est quelque chose qui déborde quasiment l'œuvre de Faulkner. Voilà. Alors le début des années 90 est surtout marqué par deux livres d'une importance considérable. C'est 90, Poétique de la relation. Alors la Poétique de la relation, on peut le dire, c'est avec le discours antillais le livre l'essai le plus important de Glissant, qui est même un peu plus complexe parfois à comprendre parce qu'il est moins didactique, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Et puis en 92, il va publier un roman, mais est-ce qu'on peut appeler ça un roman? Je ne sais même pas. C'est-à-dire que c'est tout à la fois. Il disait que c'était un tourbillon. C'était sa logique, c'était celle du tourbillon, c'est tout le monde, le roman tout le monde. Et là, c'est un foisonnement de réflexion, de poésie, de narration, très, très, très chargée, très, très signifiante. C'est-à-dire, c'est pas de la littérature pour faire joli, quoi. On n'est pas dans ça du tout. On est vraiment dans des enjeux narratifs qui sont, à chaque page, considérables. Par rapport, par exemple, à la mémoire de l'esclavage, on peut y venir pour l'une des mentions narratives de tout le monde, mais c'est des choses qu'il faut vraiment lire avec beaucoup, beaucoup d'attention, vraiment. Il suffit pas de dire que c'est un tourbillon, parce que ça, c'est... Il y a des gens qui s'engouffrent là-dedans en croyant comprendre. Ils se disent, c'est foisonnant. Mais c'est pas foisonnant, c'est signifiant, surtout.
Oui, voilà. et puis, on aura l'occasion d'y revenir aussi. Je trouve que tu mentionnais tout à l'heure le roman qui le fait connaître, au moins en métropole, et reconnaître, en tout cas en métropole, qui est La Lézarde, avec le prix Renaudot qu'il a. Entre ce roman-là, qui est de 57, tu l'as dit, c'est ça ?
58.
58. Oui. Et le tout le monde, justement, c'est aussi tout un pan de l'histoire de la littérature, en fait. Et d'une certaine manière, c'est un peu aussi un homme littérature, Glisson. Je trouve que tu as quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il digère aussi, si tu veux, l'histoire et les courants littéraires de son temps et les intègre, d'une certaine manière. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un côté un peu, presque... Je dirais obèse, mais pas dans un sens péjoratif, mais il y a quelque chose comme ça de cumulatif et une espèce d'appétit à intégrer comme ça.
Absolument.
Les courants, les esthétiques, les questionnements, les styles narratifs. Et effectivement, dans tout le monde, tu as cette espèce d'effet-là. Donc il ne s'agit pas de lire simplement ce roman-là pour lui-même, effectivement, pour ce joyeux tourbillon littéraire, un peu comme. Mais il y a cette perspective-là qui est assez fascinante aussi, je trouve.
Il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis. C'est, moi, évidemment, je ne dirais pas du tout une relation pour le jeu, quoi, pour le jeu littéraire d'épouser les mouvements de son époque. C'est plus précis que ça, oui. Et c'est plus passionnant que ça. Glisson, évidemment, depuis les années 50 et jusque à la fin des années 80, il est face à la modernité qui est en train de se... à la post-modernité qui est en train de s'affirmer en littérature. C'est le nouveau roman quand il commence, etc. C'est bon. Eh bien, ce qu'il dit, c'est que c'est une chance pour ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que ce qu'il a à dire est tellement particulier que ça ne peut se dire que comme ça, en fait. Par exemple, le roman, pour lui, il est inconcevable qu'on puisse faire un roman. Tu vois, encore La Lézarde, c'est quelque chose qui est d'une narration classique. Le 4e siècle, déjà un peu moins, mais c'est encore une narration, on va dire, qui va d'un point A à un point B. Tout change avec Malmort. Alors, Malmort, c'est un objet littéraire non identifié. Pour l'époque, ça, d'ailleurs, ça déconcerte beaucoup de gens qui disent « Non, ça, c'est pas pour nous, c'est pas pour les Antillais, en tout cas, on n'a pas besoin de ça. » Or, il a tout mis là-dedans. Il a tout mis dans Malmort. Et il l'a dit, il a épousé la modernité parce que ce qu'il avait à dire, encore une fois, ne pouvait être dit que de manière diffractée. Par exemple, ce qu'il dit sur l'histoire dans Malmort, ça ne peut être dit que comme ça.
Oui, et comme tu dis, alors bon, c'est parce que c'est difficile de parler de romans en général, que les gens n'ont pas forcément lu, etc. Mais notamment, avant qu'on termine sa biographie, le travail qui est fascinant là-dedans, c'est la manière dont tu l'as dit, écrire de manière diffractée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce de travail sur la déchronologisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chronologie au sens large, donc, ni sur les événements, ni sur la péripétie, ni sur le récit, mais t'as aussi ça du point de vue à l'échelle des personnages, je dirais. C'est-à-dire que les personnages sont eux-mêmes déchronologisés.
Totalement.
Et du coup, ça va lui permettre une espèce de jeu permanent, comme ça, entre les moments, entre les époques, entre les périodes, entre les moments personnels aussi incarnés par les personnages, justement. Oui. Et ce jeu-là, effectivement, est assez troublant. Alors, c'est pas le seul, évidemment, à explorer ce type d'approche-là, mais... Comme tu dis, effectivement, on sent qu'il y a cette espèce de coïncidence entre ce travail-là, de romancier notamment, et le fameux réel antillais.
Oui, dont il parce est question. Que justement,
il y a
une pleine cohérence dans cette démarche-là. Ouais. Quand il dit dans le discours antillais que finalement l'énonciation de l'histoire, qui est une énonciation coloniale, c'est un leurre. Il appelle ça le leurre chronologique. Eh bien, ce qu'il va faire dans ces romans-là, c'est qu'avec la déstructuration justement qu'il propose, il montre par la narration même, que ça n'a pas de sens de découper les choses en périodes. Hein. Il préfère
de manière linéaire,
voilà,
de manière
continue, totalement. De manière... Et il fait voir des choses qui sont, là encore une fois, on va y venir, anthropologiques. C'est-à-dire comment on ressent le temps quand on est intime.
Alors, juste pour terminer cette espèce de panorama très rapide, beaucoup trop rapide sur l'œuvre de Glissant, peut-être quelques mots sur la fin de son œuvre qui est plus axée sur une période alors, souvent qualifiée de plus essayiste, on va dire. Alors tu vois, notamment sur le traité du tout monde, par exemple. Donc tu as parlé de la politique de la relation. Il y a une philosophie de la relation également. Ouais. Et c'est aussi des textes qui là, alors paraissent à première vue comme ça plus essayistes ou plus conceptuels, mais qui, comme tu disais tout à l'heure, intègrent aussi. Fais attention effectivement à ces lectures. Immédiate parce que ce sont des textes qui intègrent tout le travail effectivement romanesque, poétique et anthropologique dont tu as parlé précédemment.
Oui. Hein. Il y a philosophie de la relation, ça c'est 90, et puis il y a ce qu'on appelle effectivement dans les années 2000, ce qu'on appelle les derniers essais. Ils sont d'une précision redoutable. C'est la Cohée du Lamantin en 2005, c'est une nouvelle région du monde en 2006, et puis il y a deux moments particuliers, c'est que Glissant est conscient que son œuvre est très étudiée à partir de la fin des années 90. C'est vraiment un phénomène. Hein. Il y a des thèses qui se multiplient, des congrès un peu partout, etc. Et il veut, non pas donner un digest, mais expliquer les choses de manière synthétique, pour ce qui est de sa pensée. Et alors il va faire deux essais pour cela, Introduction à une poétique du divers, en 96, qui est en fait une compilation de conférences, et puis Philosophie de la relation, que tu as cité, en 2009, je crois me souvenir que c'est ça. Et alors, en fait, là, il fait une sorte d'inventaire, quasiment, de ces différentes notions, il appelle ça des pensées. Il y a la pensée du tremblement, la pensée de la mondialité, la pensée de l'archipel, la pensée archipélique, et il définit, il donne des définitions qui, évidemment, ne sont pas des définitions... ce sont des définitions ouvertes sur son œuvre. Mais il a cette volonté de donner des outils, en fait, à ses lecteurs. C'est ça. Et en fait, les années 2000, c'est ça, c'est une reconnaissance mondiale, c'est une reconnaissance qui fait que beaucoup de gens exigent quasiment qu'il ait le Nobel, mais Glissant ne cherche pas ce genre de choses-là. En réalité... Il est non seulement reconnu, mais il a la conviction qu'il n'est pas lu en entier. Et il dit ceci, l'essentiel de ce que j'ai écrit, c'est pour après. On va le voir après. Et ça, il le sait. Et c'est pas un manque d'humilité. Hein. Il sait que c'est par la suite qu'on va prendre conscience. Ce n'est que maintenant qu'on commence à lire vraiment tout cela.
Et il y a aussi, sur ces années-là, un enjeu qui émerge de manière très très forte, enfin, il est là depuis le début, mais qui en tout cas, publiquement en tout cas, fait sens, c'est l'enjeu de la mémoire.
Ah oui, fondamental. Alors ça traverse toute son œuvre. La mémoire, c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que c'est la réappropriation de l'histoire. C'est l'enjeu...
Et de l'histoire de l'esclavage.
L'histoire de l'esclavage. Mmh. Et dans les années 2000, étant donné que l'essentiel des propos à cette époque-là par rapport à l'histoire et à la façon de vivre l'histoire, c'est la question mémorielle, il va dire qu'en effet, tout ce qu'il a montré par rapport à l'histoire, c'est pas simplement de faire appel à une nouvelle méthodologie historique pour la discipline historique, mais c'est la réappropriation et une façon de vivre ce drame qui est si considérable pour la conscience antillaise, qui est l'esclavage. Donc il va écrire effectivement un rapport qui lui est demandé par le gouvernement parce que on veut construire un centre. Il propose l'édification d'un centre de mémoire de l'esclavage qui est devenu finalement la fondation pour la mémoire de l'esclavage aujourd'hui, après beaucoup d'atermoiements, mais finalement ça a abouti. Et donc il écrit ce rapport qu'il va publier chez Gallimard qui s'appelle Mémoire des esclavages. Voilà. En 2007, me semble-t-il. Voilà.
Bien. Il meurt
en 2011, avec des problèmes de santé, mais il est clair que Glissant a mené son œuvre jusqu'au bout. Alors, une petite précision, c'est vrai que dans cette dernière partie de l'œuvre, il ne faut pas croire que c'est uniquement les essais, parce qu'il y a deux romans qui sont, mais dont les enjeux sont démesurés, mais vraiment démesurés par rapport à l'œuvre, c'est Sartorius. D'abord, l'année m'échappe, mais je vais le dire tout de suite. Sartorius, c'est en 99, me semble-t-il. Voilà. Et Ormerod, en 2003. Alors ça, ce sont des romans qui drainent des enjeux considérables. L'écriture est... On croit qu'elle est cryptée, mais en fait, tout est écrit. Donc il faut être très attentif. Mais ce sont des deux romans qui ont une importance vraiment singulière dans toute son œuvre.
Bon, on va peut-être faire une première pause musicale. On reprendra donc avec toi, Loïc, autour des deux tomes là, de ton livre, Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. On fait une première pause avant de continuer.
Merci, bon Dieu. Gardez tout ça, là, n'a tout porté pour nous. Merci, bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. Merci, bon Dieu. Gardez comment ça, là, n'a tout porté pour nous. Merci, bon Dieu. Gardez comment la misère finit pour nous. La pluie tombée, ma épouse, tout y manque qui gongo, pour les manger. À nous danser Congo, à nous danser Petro. Papa bon Dieu dit nazier, la misère vini pour nous. Misère vini pour nous, misère vini pour nous. Mise a vini buno, mise no vini. Merci bon Dieu, gardez tout ça là na tout pote buno. Merci bon Dieu, gardez comme la mise fini buno. Merci bon Dieu. Gardez tout ça là, n'a tout porté pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère finit pour nous. Ha! La pluie tombée, ma épouse, tout y moque qui gongo, prêt les manger. À nous danser Congo, à nous danser Petro. Papa bon Dieu dit nazier, la misère vini pour nous. Misère vini pour nous. Misère vini pour nous. Misère vini pour nous. Misère nous vini. Merci bon Dieu, gardez tout ça là, n'a tout porté pour nous. Merci bon Dieu.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie, consacrée ce soir avec un invité et au livre de cet invité. Donc on accueille Loïc Seyri pour les deux tomes de son livre qui s'appelle Édouard Glissant, une traversée de l'esclavage. Et on vient d'écouter à l'instant un morceau de Harry Belafonte qui s'appelle Messie Bondier. Et donc tu peux peut-être nous dire quelques mots, Loïc, puisque tu disais que c'était un morceau qui avait une particularité, comme souvent dans les morceaux créoles, d'être crypté.
Ah oui. Et ça, c'est très important de le mentionner dans une émission sur Glissant, parce que en fait, c'est un exemple de ce que lui il appelait le différement. Parce qu'une chanson comme celle-là, on peut se dire bon, c'est une chanson assez légère. Finalement, c'est oui, il y a un côté humain qui est marquant, qui même est émouvant. C'est une action de grâce. Hein. Merci bon Dieu. Voilà, en somme, c'est une chanson haïtienne. La misère est finie pour nous. Maintenant, nous pouvons donner à manger aux enfants, etc. Tout va bien. En réalité, quand on regarde cela de plus près, c'est un chant révolutionnaire. Donc, ça n'a aucun rapport avec une action de grâce. Mmh. Et ça, c'est vraiment au cœur de ce que Glissant appelle le différemment. C'est-à-dire que le créole cache les choses pour mieux les exprimer, mais dans ce qu'il appelle le différemment. C'est-à-dire que c'est un palimpseste de sens. En fait, c'est Roland Casséus qui a écrit le texte de Messie Bondier, interprété brillamment par Harry Belafonte, qui est mort il y a quelques jours. En fait, Messie Bondier, il y a deux termes qui font vriller le sens de la chanson, c'est « En nous danser Congo, en nous danser Petro ». Et en fait, il se trouve qu'en créole haïtien et en Haïti, les danses Congo et Petro, ce sont des danses d'appel à la guerre, d'appel au soulèvement. Donc, en réalité, quand on reprend le texte, à ce moment-là, avec ces deux significations-là, on comprend que
le code
parle, en fait.
Le code change.
Mais complètement. Mmh. Il s'agit de quoi? En fait, il s'agit quasiment d'une vision métaphorique, je le dis, de la séance de Bois Caïman, c'est-à-dire qui est à l'origine de la révolution haïtienne. Lorsque tous les chefs des Salines, Pétion, Toussaint, se réunissent, et c'est une séance vaudou, en fait, et vont danser, justement, tous les gens qui assistent à ça, le Congo et le Petro, ce sont des danses d'appel à la guerre, et c'est ce qui donne naissance. Là, il est connu en termes historiques que la séance de Bois Caïman, c'est le début de la révolution de Saint-Domingue. Donc là, il y a une inversion du sens qui fait beaucoup penser à ce que Glissant écrit. C'est-à-dire, Glissant, il faut décrypter le sens. Il faut retirer les choses qui nous paraissent évidentes. Et là, on découvre des choses, mais qui sont mises volontairement, hein. Parfois dans des termes. Alors, c'est pas du tout, c'est pas mal armé, quoi. C'est pas fait pour faire de l'art avec un grand A. Non, c'est parce qu'il y a un sens là-dedans. Il y a un sens et ça correspond au créole. Le créole, c'est ça.
Alors, peut-être que ça nous amène du coup à ce deuxième temps de notre émission. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure à propos de ton livre là, Loïc Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. C'est un livre et c'est l'approche que toi tu choisis volontairement pour lire l'œuvre de Glissant, une œuvre qui est assez colossale. On en a eu un aperçu. Toi, tu choisis en fait de lire cette œuvre comme une œuvre qui serait tout entière liée à ce que tu appelles une matrice en fait, hein, une matrice. C'est-à-dire, quelque chose qui va plus loin qu'un thème, c'est-à-dire que c'est à la fois l'objet de réflexion de l'écrivain Glissant, quelque chose d'obsédant, pourrait-on dire, mais c'est pas simplement un thème extérieur ou un thème ou un prétexte à réfléchir ou un objet historique ou un objet universitaire sur lequel il travaillerait comme ça de manière un peu extérieure. Il y a derrière... Difficile de préciser toutes les dimensions de cette notion-là, mais il y a un travail de connaissance, d'exploration de soi-même, d'exploration historique, de création artistique également, sachant qu'on ne peut pas dissocier tout ça. C'est-à-dire que tout ça va en même temps. Il y a une dimension qui est aussi immédiatement politique dans ce travail-là.
Tout à fait.
Et on a quelque chose qui relève à la fois de l'exploration artistique, littéraire, poétique, de l'entreprise de connaissance. C'est absolument central.
Absolument.
Et il s'agit de rendre compte de ce que Glissant lui-même désigne par le terme de réel antillais. Mmh. Et ce réel antillais, c'est un réel, tu l'as dit, qui est essentiellement absent, crypté, et qu'on ne peut d'une certaine manière approcher ou essayer d'approcher qu'en cryptant ce caractère crypté, je dirais. Mmh. Alors, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de repérer toutes les stratégies de dissimulation ou de camouflage qui ont été mises en place par les esclaves ou les descendants d'esclaves, notamment par la langue créole, mais aussi par toute une série de formes de vie, de comportements qui sont propres, effectivement, à cette réalité de l'esclavage, de cette réalité historique de l'esclavage caribéen.
Oui.
Et donc il faut à la fois comprendre effectivement ces stratégies, je dirais, de camouflage ou de cryptage, et en même temps aussi comprendre comment ces stratégies sont simplement en partie stratégiques et comment elles sont aussi en partie subies. C'est-à-dire, en fait, comment effectivement cette monstruosité historique, en fait, morale, juridique, ce travail de déshumanisation sur plusieurs siècles, quand même, comment ça a à la fois conduit à des stratégies de résistance, de réaction, de camouflage, de dissimulation, et en même temps, une fondamentale aussi désappropriation aussi de soi-même. Et il y a ces deux dimensions chez Glissant.
Oui.
À la fois identifier les stratégies et en même temps essayer de pointer, de dire ce qui manque. Alors, si tu permets, peut-être, j'ai peut-être cité, alors, c'est pas Glissant, mais c'est un des grands lecteurs de Glissant quand même, puisqu'il s'agit de Chamoiseau. Mmh. C'est des extraits que tu cites récemment, et c'est vrai que chez Chamoiseau, il y a souvent des formules comme ça, très pédagogiques, il me semble. Je vous dis deux mots sur ce que Chamoiseau appelle la mémoire obscure, peut-être.
Ah oui.
Qui renvoie, c'est une des manières, effectivement, de comprendre ce réel antillais, c'est-à-dire, et ce réel antillais dans ce qu'il manque, effectivement, dans la manière dont il peut. Alors, je lis rapidement, donc c'est dans le deuxième tome, tu le cites toi-même. ce passage de Chamoiseau. Donc c'est un petit texte, La mémoire obscure, qui est remarquable pour le coup de concision, qui est lié à une certaine édition.
Hein, oui, c'est sorti Chamoiseau, en fait. Ça a été publié par Gallimard dans une édition en coffret des quelques textes qu'il a consacrés à l'esclavage, c'est-à-dire L'esclavium et le molos, et puis Dimanche au cachot. Il y a un petit fascicule qui reprend ces textes-là.
Alors, donc tu le cites et puis on reviendra un petit après là-dessus. Donc La mémoire obscure, donc je cite là cet extrait de Chamoiseau. Mais sous ce silence transgénérationnel, nous nous sommes retrouvés ancrés dans l'esclavage lui-même, écrit Chamoiseau. Sur ce socle impalpable, l'esclavage en nous est demeuré actif. Le silence n'élimine pas le crime que l'on a subi, ne l'atténue pas, ne le transforme pas. Il le laisse intact, virulent et nocif dans les esprits et dans les chairs. Il l'installe dans la communauté. Le crime subi devient alors un informulé, un non-dit, qui déploie ses assises ou même ses tentacules dans les espaces de l'ombre. Le silence génère une mémoire inconsciente, une mémoire obscure. Ainsi, nos sociétés antillaises, nos cultures américaines, nos identités mosaïques sont traversées et structurées par des dynamiques qui proviennent de la période esclavagiste et qui se maintiennent par la mémoire obscure que nous en conservons. Cette mémoire obscure de l'esclavage et de la traite rôde encore dans nos paroles les plus anodines. Elle s'est installée dans nos orgueils et nos susceptibilités. Elle s'est profilée dans l'arrière-fond de nos contes, de nos chansons, de nos proverbes, de nos titimes. Elle a émergé dans nos formulations de manière détournée, furtive, étranglée ou secrète, mais toujours opaque et permanente. Elle est active dans l'intimité de nos chairs, de nos organisations sociales et de nos esprits. Mmh. Un extrait assez, assez spectaculaire de Chamoiseau.
Tout à fait.
Alors, c'est une des manières de comprendre la complexité de ce réel antillais, peut-être.
Moi, il y a déjà une chose que tu me permets de faire et qui est remarquable là, parce que ça, je saute sur l'occasion, c'est de clarifier finalement l'intention que j'ai eue en faisant cette espèce de pavé assez effrayant. C'est que, en fait, c'est pas un thème que j'aborde du tout. Et tu l'as dit. Parce qu'en fait, il s'agit pas de réduire Glissant à un thème qui serait l'esclavage, qui serait pour lui une sorte d'obsession. C'est pas ça du tout. En fait, quand on parle de réel antillais, depuis tout à l'heure, on parle de quoi, en fait? On parle de... Il y a un mot qui revient, mais finalement, ce mot, il faut le définir. L'esclavage, c'est quoi? C'est pas un phénomène de production, c'est pas une époque uniquement de l'histoire, c'est ce que Moss appelait un fait social total. C'est-à-dire c'est quelque chose qui définit l'être. Il y a plus de temps dans l'histoire antillaise d'esclavage que de post-esclavage. T'as déjà ça, c'est-à-dire que l'abolition c'est depuis 1848, ce qui veut dire que cette société est issue de cette matrice déjà là pour elle-même. Mais ce que je voulais faire, en fait, c'était pas du tout de ramener Glissant à un thème, c'est de bien montrer que ce qu'on appelle l'esclavage, c'est finalement le réel antillais. C'est-à-dire que c'est pas simplement, encore une fois, ça, c'est vraiment ce réel-là. Et en réalité, la question de la matrice permet de comprendre, et c'est pour ça que pour moi, il s'agissait pour moi de donner par l'exemple ce que je pense de la façon dont il faut aborder cette œuvre-là, c'est-à-dire comme un tout. Une matrice, ça permet de comprendre comment cette œuvre-là est un tout où tous les genres et tous les livres et toutes les mentions se répondent les unes dans les autres. Donc c'est un univers où tout est cohérent et où tout dialogue avec tout. Et c'est pour cela qu'en l'occurrence, quand on étudie ça, on est face à un sens qui apparaît dans l'évolution de l'œuvre et dans sa diversité de genres. C'est ça la matrice. C'est ça la matrice. Et Glissant, il fonctionne comme ça. On en parlait, on ne peut pas comprendre Glissant, par exemple, si on se fonde sur ses essais. Et ça, c'est un très, très, très grand malentendu. C'est-à-dire que, étant donné que l'œuvre est très étudiée par les sciences humaines aujourd'hui, il y a même la géographie nouvelle qui étudie la notion de territoire chez Glissant par rapport à l'espace, etc. Enfin, il est inépuisable pour les sciences humaines, les sciences sociales. C'est normal, il vient de là. Eh bien, on se fourvoie si on se fonde uniquement sur les essais. Et généralement, les chercheurs en sciences sociales, ils vont directement vers les essais. Mais oui, mais le problème, c'est que la lecture, elle devient carrément paraplégique, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès vraiment à Glissant, là. Du tout. Et je peux donner des... Quand je dis ça, on a l'impression que je fais... Non, non, c'est pas un effet de parole. Hein. C'est que je peux donner des exemples précis. Quand, par exemple, on parle de... Tu parlais de dépossession de l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'oblitération de l'histoire. Ça, c'est quelque chose de tellement difficile à expliquer dans un essai qu'il le dit dans le discours antillais. Il dit, l'antillais, pour beaucoup de raisons historiques, déjà parce que au lendemain de l'abolition, il y a eu un, par exemple, le gouverneur qui a proclamé l'abolition en Martinique, Rostolan. Il a fait un discours le lendemain de l'abolition, en disant à tout le monde, eh bien, chers amis, maintenant, il va falloir oublier.
On en reparlera. Ça, c'est absolument fascinant. Voilà. C'est un des grands temps forts de
c'est ton, un fait historique.
C'est un fait historique. Mais les documents sont absolument extraordinaires, avec une espèce de politique de l'oubli imposé.
Tout à fait.
L'abolition de l'esclavage, c'est ça.
Et je vais te dire, ce qui pour moi est le recours, si tu veux, par rapport à ça, c'est de m'appuyer sur les travaux d'historiens qui se sont appuyés là-dessus. Parce que ça a pu être contesté. On s'est dit, oui, mais enfin bon, c'est qu'un discours. Bon, mais non, c'est pas ça. Historiquement parlant, l'éducation nationale aux Antilles, c'était... un travail de... Il fallait travailler l'oubli, quoi. C'est-à-dire, il fallait dire à tout le monde, maintenant, vous êtes des citoyens. Vous êtes des citoyens à égalité. Donc, en fait, la République vous a libéré. Et d'ailleurs, regardez, c'est Schœlcher, c'est un Français qui vous a libéré. Donc, en réalité, il y a des historiens, par exemple Myriam Cotillas, qui ont étudié cela de très près en disant qu'il y a une politique de l'oubli.
Oui, il n'y a pas d'autre terme que ça. Hein.
C'est une politique de l'oubli. Alors, ça n'a peut-être absolument rien à voir, donc tu dis que je suis hors sujet, mais ça me rappelle cette obligation de l'amnistie après la guerre civile à Athènes.
J'en ai parlé, en fait. Hein.
Ah, d'accord. Je sais.
Donc, on est au cœur du sujet.
D'accord.
On est au cœur
du sujet. Avec cette idée qu'il y avait justement une guerre civile, et donc, après la guerre civile, il faut passer à autre chose. Et donc, il faut une loi d'amnistie.
Absolument.
Sauf que là, c'était une guerre civile, en fait, elle aussi niait.
Oui, tout à fait. Il y a un jeune historien qui a étudié exactement ça. Et moi, je le cite parce que c'est le même phénomène, en fait. C'est le phénomène de décréter qu'il y a un oubli, parce qu'il y a des raisons politiques pour ça, il y a des raisons pour l'abolition. Il faut fonder le nouveau citoyen, la citoyenneté, mais c'est un leurre. C'est ce qu'il appelle un leurre. C'est-à-dire que c'est une décision coloniale, finalement.
Alors, on va revenir peut-être, je me permets d'assister et revenir sur le réel antillais. Je voudrais te lire un autre passage de Glissant, mais juste là-dessus, sur cette politique de l'oubli, on y reviendra, parce que pour moi, c'est aussi un des points très importants de ton livre. Effectivement, il s'agit de faire l'inventaire du réel antillais, oui. Sauf qu'effectivement, ce que tu montres aussi très bien dans ton livre, et là, je pense qu'il y a la matière à de nombreux prolongements, c'est qu'en fait, c'est pas simplement le réel antillais. C'est-à-dire que le réel antillais, il n'est pas séparé du réel métropolitain.
Du tout.
Et donc, en fait, c'est pas simplement une amnistie post-guerre civile dont il s'agit. Et tu le montres très bien, notamment lorsque tu cites les extraits de ce fameux texte de Renan qu'on cite sur le plébiscite de tous les jours.
Le vouloir vivre, vivre ensemble.
La fondation, non seulement de la République, du républicanisme français, et peut-être même une des fondations du nationalisme républicain français, repose sur cet oubli, pas simplement de l'esclavage, mais essentiellement de la période esclavagiste.
Oui, oui.
Donc c'est quelque chose qui est absolument fondateur dans l'histoire de la métropole impériale républicaine française.
C'est lié à la lecture de l'histoire, c'est-à-dire c'est les enjeux de
absolument.
La lecture de l'histoire.
Mais c'est voilà, le réel antillais est une des clés, peut-être une des clés les plus fécondes en tout cas pour comprendre effectivement l'histoire de la République française. Voilà. Alors juste je referme ça, mais on va y revenir parce que ça donne une idée de la mesure des enjeux que ça pose en termes justement de compréhension et de connaissance historique, hein, je pense. Et l'œuvre de Glissant, et la manière dont tu l'abordes, me semble-t-il. Pour revenir à cette question de la dépossession du manque, ou la spécificité du réel antillais, je me permets de citer, alors c'est pareil, hein, je reprends ça dans ton livre, on est là à page 88, donc tiré de Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage, dont on est dans le premier tome. Tu cites ce passage de la poétique de la relation, ce texte nommé La barque ouverte, qui reprend et qui condense justement avec ce style propre à Glissant la spécificité de l'expérience historique de l'esclavage aux Antilles et au-delà. Alors je lis l'extrait. Ce qui pétrifie dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrangement au pays quotidien, au Dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte même quand il foudroie. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenue de tant d'incroyables guéhennes. Supposez 200 personnes entassées dans un espace qui à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge démontée sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige, cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions, déportés pendant 2 siècles et plus. L'usure, plus sempiternelle qu'une apocalypse, mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre, 3 fois noué à l'inconnu, 1 fois donc, inaugurale, quand tu tombes dans le ventre de la barque. Une barque, selon ta poétique, n'a pas de ventre. Une barque n'engloutit pas, ne dévore pas, une barque se dirige à plein ciel. Le ventre de cette barque-ci te dissout, te précipite dans un non-monde où tu cries. Cette barque est une matrice, le gouffre matrice, génétrice de ta clameur, productrice aussi de toute unanimité à venir. Car si tu es seul dans cette souffrance, tu partages l'inconnu avec quelques-uns que tu ne connais pas encore. Cette barque est ta matrice, un moule qui t'expulse pourtant, enceinte d'autant de morts que de vivants, en sursis. Alors, peut-être 2 mots de commentaire sur cet extrait-là.
Oui, ben, on est au sommet, je crois, là, parce que tu disais qu'il y a l'enjeu par rapport à la question de la dépossession. En fait, quand il constate dans le discours antillais qu'il y a une dépossession de leur histoire, dépossession, ça veut dire vraiment que soi-même, on a un sentiment d'oblitération en soi. Bon. Il en découle que la littérature va devoir assumer des enjeux que généralement elle n'a pas à assumer. Et voilà, donc c'est une redéfinition quasiment des enjeux de la littérature. Là, on a affaire à un texte qui est lié à sa vision. Une vision très complexe à expliquer, c'est pour ça que moi j'ai renoncé à l'expliquer, à la définir. J'ai essayé de la définir 7 fois dans le livre, c'est la vision prophétique du passé. C'est-à-dire que ce texte, c'est l'une des modalités de ce qu'il appelle la vision prophétique du passé. En fait, c'est la vision de l'anamnèse. C'est la modalité de l'anamnèse. Glissant, alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte-là ?
Définir peut-être c'est
dans ce texte-là, il se hisse au niveau quasiment d'un voyant. C'est-à-dire, il va dire ce qui se passait dans la cale du bateau négrier et sur un bateau négrier. Mais ce n'est pas une intuition. Ce n'est pas simplement une intuition poétique, on va dire, de créateur, comme ça, qui veut donner une image singulière ou frappante. Non, c'est vraiment une représentation au sens profond de ce que ça doit être pour la personne qui veut se réapproprier les choses. Ce qui est raconté là, finalement, ne peut pas être raconté par l'histoire. C'est-à-dire que le drame de cette histoire-là, c'est qu'il y a une barrière de l'archive. On va y venir, sur cette question-là. Et là, il y a très peu de témoignages sur ce qu'était réellement la traversée, ce qu'on appelle le passage du milieu. C'est-à-dire, c'était un drame, c'était véritablement une barbarie complète, et dont sont issus les Antillais. Donc, en fait, il s'agit de dire, figure-toi que c'était ça. Et alors ça, je vais te détailler ça, mais tous les détails que Glissant donne là, on peut les retrouver chez des historiens, notamment américains et anglais, parce que c'est surtout eux qui ont travaillé sur les données des navires négriers, etc. C'est compliqué à faire, mais ils l'ont fait. Et ce sont des choses qui ne sont pas, si tu veux, exagérées, ce sont des choses réelles. Bon, mais surtout dans ce texte-là, la vision prophétique du passé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait le lien avec la personne qui va lire ça. Figure-toi que tout cela, c'est la situation dans laquelle, c'est celle dont tu es issu, quand tu dis tu as été confronté à des gens que tu ne connaissais pas. C'est précisément ça, c'est-à-dire qu'il y avait des ethnies différentes, on les mettait, ils étaient différents pour qu'ils puissent pas communiquer entre eux. Et on se méfiait particulièrement des Ibos, parce que les Ibos, ils se suicidaient en avalant leur langue. Bon. Et en fait...
Par vérition, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Et, ah oui, mais c'est l'immobile vérition, alors là, on peut rentrer dans ça, c'est la fin du cahier de retour au pays natal. Et alors là, c'est le fait de lier ça, de dire tu es issu de ça, mais ça veut dire que quoi ? Tu es dans une barque. Alors là, c'est quelque chose d'immense chez Glissant. C'est la notion du gouffre. C'est une notion qui est à la fois une visualisation d'une réalité, et puis c'est une notion qui est une notion philosophique, en fait. Une notion philosophique qui a un rapport direct avec une contestation de Hegel, c'est-à-dire que c'est une nouvelle dialectique dans laquelle on rentre. Alors ça, je suis sûr qu'on va y revenir, mais c'est la dialectique du devenir. C'est ça qu'il a voulu dire là. C'est-à-dire que les Antillais sont obligés de partir de là, de partir de cette réalité-là, pour savoir que il faut pas remonter avant, ils peuvent pas remonter avant.
Et c'est ça la différence avec la négritude. Il ne faut pas remonter à l'Afrique, il faut remonter au gouffre.
Il n'y a pas d'origine.
Non,
positive. L'origine... Il n'y a pas de pays natal, il y a un gouffre natal.
C'est ce qu'il appelle la digenèse. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de genèse, il y a une digenèse. Mm-hmm. Et c'est-à-dire qu'il y a une genèse qui est ouverte sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire ce que Alexa Lé propose dans Racine, dans Roots. C'est-à-dire retrouver le village dont tu es issu, etc. Et puis il y a Kunta Kinte qui vient, il y a une filiation. Il dit que pour les Antillais, ce n'est pas possible. Simplement parce qu'il y a une barrière. Il faut constater cette barrière. C'est constater cette barrière dans la tête, c'est quelque, c'est un drame, hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a aucun registre paroissial qui pourra dire je suis issu de cette région, de ce machin. C'est pas possible.
Ça te casse, ça te casse, ça te brise ton rapport au temps.
Ça
et
te ça, brise
et ça le brise à l'échelle de l'histoire de la population antillaise, à l'échelle de la communauté antillaise et à l'échelle y compris personnelle, individuelle.
Et puis c'est un effort quasiment pour la personne même, en termes psychologiques, de se dire qu'on est issu de l'un des, enfin d'un gouffre. On est issu d'un gouffre. On est issu de quelque chose qui était la précarisation de la vie, quoi. Donc, on est issu de ce drame-là. Voilà. Donc ça.
Et de la déshumanisation. C'est pas juste de la précarisation.
De la précarisation. Alors, quand je parlais de la précarisation, c'est l'arrivée sur l'habitation. Mmh. C'est-à-dire l'habitation, tu peux mourir pour un rien, quoi. Ça, il te suffit de contester quelque chose, c'est fini, terminé. Donc, c'est ce que Césaire dit un peu dans son cahier de retour au pays natal. La vie d'un nègre ne valait rien, quoi, en fait. Mais strictement rien. C'était un meuble, puisqu'en l'occurrence, c'est ce que définissait le code noir. Eh bien, il dit tout ça, et la vision prophétique du passé, là, qui se joue, c'est la modalité d'anamnèse qui dit que, à la fin, tu es dans cette barque-là, et tu y es toujours, en fait. C'est-à-dire que tu es dans un devenir. Tu ne peux pas dire, je bénéficie de cette histoire et je vais rien en faire. C'est pas possible. Tu es obligé d'en faire quelque chose. Et c'est ça qui le devenir chez lui, c'est une notion absolument essentielle. Voilà.
On va peut-être marquer une deuxième pause avant d'en venir à ces questions-là qui sont complètement passionnantes là sur le rapport de Glissant au temps, à la mémoire et à l'histoire. Les trois niveaux sont juste chez lui. Donc on revient autour de ton livre, Édouard Glissant, Une traversée de l'esclavage. Mais avant ça, on fait une pause musicale.
Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. And
emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill.